Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de rechef dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant, et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps, car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance, car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints, selon Dieu. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos, car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas donc aussi librement de toutes choses avec lui? Qui intentera accusation contre des élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée, selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni mort ni vie, ni ange ni principauté, ni choses présentes ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparés de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous avons vu que ce chapitre 8 se divise en trois parties et que chacune des parties correspond à une action de l'Esprit ou de Dieu. Dans la première partie qui va jusqu'au verset 11e, nous avons ce que Dieu a fait de nous, puis depuis le verset 12 jusqu'au verset 30e, ce que Dieu opère en nous, et dans le dernier paragraphe, ce que Dieu fait pour nous. Nous avons brièvement examiné hier soir la première partie. Et ce soir, nous allons nous pencher sur la deuxième et la troisième partie depuis le verset 14. Mais, il est important de signaler tout de suite une chose, c'est que dans la deuxième partie, nous avons ce que Dieu produit en nous, dans notre être intérieur. Et dans la troisième partie, nous quittons le domaine de notre être intérieur pour voir ce que Dieu fait autour de nous en notre faveur. Mais on devrait dire plus qu'autour de nous. On devrait dire pour nous. Car il y a les hauteurs et les profondeurs. Il y a les puissances de méchanceté qui sont dans les lieux saints et qui luttent contre les saints. Il y a les profondeurs de l'abîme, et toutes ces puissances-là ne pourront pas s'élever contre les croyants, parce que les croyants ont Dieu pour eux. Revenons à cette deuxième partie, ce que Dieu fait en nous. Ce qu'il fait en nous, c'est de placer en nous comme puissance et énergie dans la marche le Saint-Esprit qui est une personne de la Trinité. Il peut exister des croyants qui n'ont pas reçu l'Esprit-Saint, mais c'est un état transitoire et anormal. Il faut distinguer l'opération de l'Esprit-Saint dans l'homme pour qu'il accepte le salut et la présence personnelle de l'Esprit-Saint comme personne divine dans l'homme comme énergie pour la marche et comme personne divine en lui formant des désirs qui appellent l'homme vers le ciel et qui le font soupirer après le Saint-Séjour. Nous allons tenter d'expliquer cette double aspect des opérations de l'Esprit-Saint. Prenons l'exemple du fils prodigue. On dira, quand le fils prodigue a-t-il eu le bénéfice de la présence de l'Esprit-Saint en lui? Il a eu ce bénéfice de la présence de l'Esprit-Saint en lui au moment où il a eu conscience de sa position de fils devant son père. Quand le fils prodigue, qui était loin de la maison paternelle et qui devait manger des gousses données aux pourceaux, se disait, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Il a, à ce moment-là, pris la décision de quitter cet état. Il s'est dirigé vers la maison paternelle, mais entre le moment où il a pris la décision d'aller dans la maison paternelle et le moment où il a su qu'il était agréé comme fils, quand son père a dit « Apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez », dans ce trajet, depuis le moment où il a quitté les pourceaux Et le moment où il a eu le sentiment d'être accepté comme fils par son père, il s'est écoulé un certain laps de temps. Et ce laps de temps, c'est le temps qui s'écoule pour une âme entre le moment où l'Esprit Saint opérant en lui, cette âme décide d'aller vers Jésus. Et le moment où, étant arrivé à Jésus, ayant reçu le pardon, et la conscience qu'elle est enfant de Dieu, que ses péchés ne lui sont plus imputés, et qu'étant dans cette position d'enfant, elle peut vraiment jouir de la présence personnelle du Saint-Esprit en elle. Si le Saint-Esprit est dans un croyant, et il doit l'être, quoique il puisse s'écouler un temps entre la conversion et la présence du Saint-Esprit dans le croyant. Ce croyant n'a plus de doute quant au salut de son âme. Il n'a plus de doute quant aux intentions de Dieu à son égard. Il sait qu'il est enfant de Dieu, qu'il est agréé de Dieu. Et voici le premier point que nous trouvons dans cette deuxième partie, cette question de l'adoption. Qu'est-ce qui me dira qu'un croyant avec lequel je converserai a l'Esprit Saint? Ce qu'il me le dira, c'est d'abord que ce croyant manifestera par ses propos et par sa marche qu'il est enfant de Dieu, qu'il n'a plus peur de la justice de Dieu, qu'il sait que Christ a payé pour lui, que Dieu est un Père tendre et bon à son égard. Quand une âme est dans cet état, elle a l'Esprit Saint. Parce que nous avons comme fruit de l'Esprit dans l'homme l'adoption. Seulement, attention, nous avons adoption et adoption. Nous savons les déboires qu'ont eu des parents qui n'ayant pas d'enfants, ont adopté un enfant de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se produit la plupart du temps? Ils prennent cet enfant. Comme ils n'en ont pas eu, ils soignent cet enfant avec beaucoup d'amour, ils l'élèvent. Cet enfant grandit dans le foyer qu'il a trouvé, il s'attache à ses parents. Mais quand cet enfant devient grand, on s'aperçoit d'une question. C'est que le caractère de cet enfant n'est pas conforme au caractère de ses parents, ce qui est évident puisque cet enfant a un sang différent de celui de ses parents. C'est la difficulté de l'adoption. Mais ce qui caractérise l'adoption de Dieu, c'est-à-dire qu'il nous prend, nous pécheurs, nous purifie et nous constitue ses enfants, c'est qu'il peut faire ce qu'aucun père et aucune mère ne pourrait faire sur cette terre à l'égard d'un enfant adopté, c'est lui communiquer sa nature propre. Dieu communique à son enfant une nature qui est la nature divine. Et si bien que la nature de l'enfant est la même que la nature du père. Seul l'Esprit Saint peut opérer cela dans l'homme. Et alors, nous nous approchons de Dieu dans une sainte révérence, mais dans une intimité tellement belle. Abba Père. Abba est un terme araméen qui signifie Père avec un accent de tendresse et que certains ont voulu traduire par Papa. Mais pourquoi le Seigneur place-t-il ici cette expression « Abba Père » C'est comme s'il s'adressait à Dieu en disant « Père ou Papa, vous qui êtes Père » Parce que cette expression se trouve trois fois dans l'Écriture. Elle se trouve lorsque Jésus était au jardin de Gethsémané et comme homme parfait, se soumettant à la volonté de son Père dans l'ardeur du combat. Dans la nuit du jardin de Gethsémané, quand sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang découlant sur la terre, il a élevé cette face sanglante vers le ciel et a dit « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Fais passer cette coupe loin de moi. Cri pathétique que le Fils de Dieu a poussé dans le jardin des oliviers, mais qui, à ce moment suprême de sa lutte contre Satan, exprimait cette intimité avec Dieu. Père, vous qui êtes mon Père, fais passer cette coupe loin de moi. Et cette expression qui se trouve la première fois dans la bouche du Sauveur souffrant à Gethsémané est appliquée à deux reprises dans les Épîtres aux croyants eux-mêmes. Premièrement dans l'Épître aux Romains, le texte que nous avons sous les yeux, et deuxièmement dans l'Épître aux Galates. Mais ce sont les croyants qui s'approchent de Dieu et qui disent « Abba Père, Père, toi qui es Père pour moi ». Ce sentiment d'intimité devant le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu de sainteté, est une des opérations remarquables de l'Esprit-Saint dans l'homme pécheur. Quand on peut, dans l'intimité du cabinet, se mettant à genoux pour la prière, s'adresser à notre Dieu et lui dire « Père, toi qui es Père, entends mon cri de détresse, ou entends ma demande, ou entends ma parole d'action de grâce », c'est une opération de l'Esprit-Saint dans l'homme de lui permettre de s'adresser à Dieu de cette façon. C'est le fruit de l'adoption. Mais il y a autre chose. Non seulement il y a l'intimité entre l'enfant et le père qui est créé, mais il y a des droits qui sont conférés à l'enfant. Si on adopte un enfant, c'est pour que, lorsque nous serons morts, cet enfant ait droit à l'héritage. Et nous sommes héritiers. Alors là, nous avons besoin de voir ce que l'Esprit constitue pour nous. C'est-à-dire que Christ est l'héritier de Dieu. Il est le Fils du Père. Il est héritier de toutes choses. Il sera établi sur toute la création et sur tout être, selon ce qui est dit dans Philippiens 2, que tout être, céleste, terrestre ou infernal, confessera que Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire Maître, à la gloire de Dieu le Père. Mais Christ ne veut pas entrer seul dans son héritage. Il veut être premier-né entre plusieurs frères. Et c'est là l'éminente dignité à laquelle les croyants sont appelés. Ils sont non seulement enfants de Dieu, ayant une intimité avec Dieu, mais ils sont fils de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont des droits à l'héritage. Ils sont co-héritiers de Christ, c'est-à-dire héritiers avec Christ. Christ est l'héritier de toutes choses, de la part du Père, et les croyants sont héritiers avec Christ. Chers frères et sœurs, nous habitons sur une terre dont nous sommes les légitimes héritiers selon la pensée de Dieu. Mais comme Abraham, qui vivait sous une tente et en étranger sur une terre dont il était le légitime propriétaire, nous sommes sur cette terre des pèlerins et des voyageurs et nous attendons l'héritage. Parce que cet héritage, nous ne voulons pas en jouir maintenant, parce que ce monde est dominé par Satan, nous jouirons de l'héritage avec Christ. Christ l'héritier, nous les co-héritiers. C'est pour cela que l'apôtre emploie les deux expressions « Fils de Dieu quant au droit à l'héritage ». Enfant de Dieu quant à l'intimité avec le Père. Et voilà les deux aspects de l'adoption, une nature divine qui nous est communiquée, une intimité créée entre le croyant et Dieu qui est son Père, et enfin un droit à l'héritage. Mais il y a quelque chose. Co-héritier de Christ, ça signifie héritier avec Christ. Puis ensuite, si nous souffrons avec Christ, il y a deux fois avec, héritier avec Christ et souffrir avec Christ. La souffrance ici, qui est présenté dans ce passage, si nous souffrons avec Christ, il nous est dit, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui, nous avons part à l'héritage, mais nous avons part à la souffrance. Il s'agit d'une souffrance particulière. Il ne s'agit pas ici de la souffrance pour le péché. Christ est seul à avoir souffert pour le péché. Il s'agit de la souffrance pour la justice. Et nous allons expliquer cette expression. Christ, sur la terre, a souffert de façon très diverse. Mais jamais le Seigneur n'aurait pu être satisfait sur cette terre dans son ministère tant qu'il savait qu'il y avait une souffrance qui était réalisée par un être humain ou par même par un être de la création de Dieu asservi à la puissance du péché. Il y a eu dans le cœur du Seigneur une souffrance poignante qui est la souffrance en sympathie avec la souffrance de la création. Et cette souffrance-là, chers frères et sœurs, nous l'oublions quand nous sommes en bonne santé et dans la prospérité. Cette souffrance, nous l'écartons et nous avons mille raisons et mille façons de l'écarter. C'est-à-dire que si tout va bien pour nous, que nous avons une bonne santé, que nous sommes plus ou moins aisés, pour satisfaire nos loisirs, nous oublions qu'il y a dans des hôpitaux des êtres maintenant qui crient, qui gémissent de douleur, mystère de la volonté de Dieu à l'égard de sa créature, et quand on oublie de souffrir avec la création souffrante, allons dans les hôpitaux, assistons à des services funèbres où l'on voit les larmes qui coulent. Le chrétien qui a le cœur de Christ souffre avec Christ à cause de l'état de la création. Quand les Juifs ont dit de Jésus devant le tombeau de Lazare, ils ont vu les larmes perler sur ses joues devant le tombeau de Lazare et qu'ils ont dit, voyez comme il l'affectionnait. Ils ont cru que les larmes de Jésus n'étaient que les larmes d'un ami qui a perdu son bon ami. Parce que Lazare recevait Jésus dans sa maison avec Marthe et avec Marie. Et Jésus aimait à se rendre chez ces trois personnes. Alors les Juifs qui étaient là, voyant pleurer Jésus à l'entrée du sépulcre fermé, commencent à dire, voyez, c'est ton ami qui pleure, son ami. Les larmes de Jésus devant le tombeau de Lazare sont des larmes qui vont bien au-delà. Ce sont des larmes saintes, parce que Jésus pleurait en sympathie sur la condition de l'homme. Et tous ceux qui ont vu des cercueils descendre dans les fosses, dans les cimetières, tous ceux qui ont parcouru les corridors des hôpitaux et qui ont entendu le gémissement des grands malades et des grands opérés, ou bien s'en sont détournés avec pudeur et ont souhaité ne plus se souvenir de ces gémissements. Mais le chrétien qui voit cela et qui entend cela, il souffre avec Christ en sympathie sur la position dans laquelle le péché a mis l'âme. Voilà les larmes de Christ devant le tombeau de Lazare. Il fallait que Marthe poussât cette exclamation, « Seigneur, il sent déjà !» pour que le Seigneur se dise, « Cet être sorti parfait des mains du Créateur, cet homme qui a été placé en Éden, ce corps par Dieu même formé, le voilà travaillé par la corruption du sépulcre. Et Lazare était mon ami, mais il est en quelque sorte le symbole de l'humanité qui descend dans la corruption du sépulcre. Alors le Seigneur pleure, en voyant dans quel état le péché a mis cette créature sortie parfaite de ses mains. Et si les disciples avaient été spirituels à ce moment-là, il y aurait eu aussi des larmes pour eux parce qu'ils auraient souffert avec le Seigneur qui souffrait avec l'homme dans sa condition pécheresse et malheureuse. Le chrétien doit avoir un pouvoir de sympathie. C'est l'esprit qui produit ça en lui. Et qu'est-ce que la sympathie? La sympathie est un terme qui originellement signifie la souffrance avec quelqu'un. Sympathie est le terme grec et condoléance est le terme d'origine latine, mais les deux mots signifient la même chose, souffrir avec. La sympathie, c'est la souffrance avec. Or, dans ce passage, il est dit si nous souffrons avec Christ, mais c'est une souffrance particulière du chrétien, qui est la souffrance du chrétien qui est dans un monde où les larmes coulent, où des cris de détresse sont poussés, où des souffrances atroces se réalisent. Quand on voit dans quel état le péché a mis l'homme, et dans quel état quelquefois un corps humain est réduit par d'atroces maladies, et que quelquefois on ne reconnaît même plus la personne qui est là sur la couche funèbre, c'est dans cet état que le péché a mis l'âme. Alors le chrétien ne peut pas être indifférent à cela. Et ces joies aux chrétiens, ce sont des joies d'ordre spirituel. On peut guère s'amuser et rire et plaisanter et s'amuser comme le monde quand on sait dans quel état la création se trouve. Et comme chrétien, nous souffrons en sympathie avec l'état dans lequel la créature a été placée. Alors l'apôtre, dans le paragraphe suivant, peut dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. » Et dans ce verset, tout s'oppose. Les souffrances, la gloire du temps présent, avenir qui doit nous être révélé. Tout est mis en opposition. Les souffrances, la gloire. Présent, avenir qui doit nous être révélé. Les éléments s'opposent. Alors le chrétien qui a l'esprit en lui et qui par l'esprit nourrit cette espérance de la gloire, il estime indigne de comparer même ses souffrances du temps présent qu'il éprouve sur la terre avec la gloire à venir dont l'esprit l'entretient. Et alors, l'apôtre montre quel va être le destin de cette création qui est en travail. Il compare la création ici à une femme qui a les mots pour donner naissance à un enfant. Il dit toute la création est en travail. Une femme qui aimerait mettre au monde son enfant, mais qui ne peut pas fixer exactement le moment où elle le mettra au monde. Telle est la création. La création est en travail. Elle est comme une femme qui va accoucher de son enfant. Elle est en travail. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à la révélation des fils de Dieu. Si je puis prolonger l'image de Paul, l'accouchement de cette création, en quelque sorte, le moment béni où enfin ce travail permettra à la gloire de Dieu de se manifester dans la création, ce moment coïncidera avec la révélation des fils de Dieu. Dans l'histoire de l'Église, on a pensé que pour que la terre aille mieux, il fallait supprimer les chrétiens. Nous avons des données très précises dans l'histoire. Sous l'Empire romain, les empereurs pensaient que les Romains étaient des troubles-fêtes, qu'il fallait éliminer certains d'entre eux, tout au moins. Au cours de l'histoire, il y a eu des gens qui pensaient que tant qu'il y aurait de vrais chrétiens sur la terre, les choses n'iraient pas, parce que c'était eux qui empêchaient les autres de tourner en rond. Eh bien, ces gens-là se rendront compte un jour que quand le bonheur véritable, c'est-à-dire quand la dernière souffrance et le dernier cri se seront tus sur cette terre, ce sera lors de la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire lorsque nous paraîtrons en gloire avec Christ pour régner sur cette terre, purifiée par le jugement. C'est à ce moment-là que la création trouvera enfin le repos après cette longue et terrible période de travail et de travail intérieur et profond et amer. Chers frères et sœurs, il est dit ensuite que toute la création pourra jouir de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Cette expression de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu est très importante et doit être retenue. Qu'est-ce qu'elle signifie? Il n'est pas dit, n'est-ce pas, à propos de la terre qui sera délivrée de la servitude de la corruption, qu'elle jouira de la gloire des enfants de Dieu, mais de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est-à-dire que cette terre, travaillée maintenant par le péché, cette terre, quand nous régnerons avec Christ, jouira de la liberté que la gloire qui sera la nôtre procurera à la terre. S'il y a liberté sur la terre, nous disons au contraire qu'il y a asservissement à la corruption sur cette terre. Asservissement à la corruption. Il n'y a pas de liberté. Quand vous voyez le bétail, par exemple, lors de chasse, ces bêtes tremblantes de peur, c'est quelque chose, si on réfléchit à l'instinct qui anime ces bêtes, et à l'état dans lequel se trouve la création, c'est quelque chose, pour celui qui a le cœur un peu tendre, qui lui fait mal. Or, toute cette création jouira d'une liberté, c'est-à-dire qu'elle sera délivrée de cette crainte et de cette corruption à cause de la gloire qui sera la nôtre comme enfant de Dieu régnant avec Christ sur la terre. Pour jouir de la liberté de la gloire, c'est-à-dire que le loup et l'agneau pourront enfin être ensemble, que l'agneau ne sera plus terrifié par les apparitions du loup. Il y aura liberté dans la création, provoquée par la gloire des enfants de Dieu manifestée lorsque Christ règnera. Voilà le sens de cette expression, lorsque la création sera libérée de la servitude et de la crainte. Mais il y a autre chose. Nous attendons l'adoption. Nous attendons la gloire. Et alors, cette attente, c'est l'espérance. Il y a dans l'Écriture plusieurs passages, nous les avons lus encore cet après-midi, qui nous parlent de l'étoile du matin qui se lève dans le cœur du chrétien. Et j'aimerais rapidement les passer en revue parce que les passages qui nous parlent de l'espérance du retour de Christ, cette espérance bénie, produite par le Saint-Esprit en nous, ces passages sont propres à encourager le chrétien. Dans l'épître de Pierre, il nous est dit, prenez garde à la lampe prophétique qui brille comme dans un lieu obscur, jusqu'à ce que l'étoile du matin soit levée dans vos cœurs. Dans l'Apocalypse, il est dit, celui qui vaincra, je lui donnerai de paître les nations avec une verge de fer, et je lui donnerai l'étoile du matin. Et à la fin de l'Apocalypse, le Seigneur se présente comme étant celui qui est avant et après David, les sources et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Chers frères et sœurs, dans ces trois passages, nous avons l'espérance. Et nous allons préciser en quoi consiste cette espérance. L'espérance chrétienne est double. Elle est double parce qu'elle est céleste et elle est aussi terrestre. L'espérance chrétienne céleste est figurée par l'étoile du matin qui brille dans le ciel. Mais pour voir l'étoile du matin, cette belle étoile qui brille si claire, n'est-ce pas, la dernière de toutes avant le lever du soleil, pour la voir, il faut être veillant. Ceux qui dorment ne la voient pas. Si on reste dans son lit à dormir, on ne voit pas l'étoile du matin. Mais en revanche, si l'on se lève assez tôt ou si l'on veille, on voit l'étoile du matin. Et qu'est-ce que cette étoile du matin ? C'est Christ lui-même. Par conséquent, pendant la nuit veillante avec prière, nous t'attendons du ciel comme sauveur. C'est l'espérance que l'Esprit place en nous. Et il est dit à la fin de l'Apocalypse, l'épouse et l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit provoquant dans l'assemblée et dans le cœur du croyant, le désir d'être avec le Seigneur. Mais l'étoile du matin est déjà levée dans son cœur. Christ est déjà en lui. L'espérance de le voir, lui déjà pour lui. Mais il n'y a pas que l'étoile du matin. Il y a sur la terre une part de l'espérance du chrétien. Et cette part, elle est figurée par la lampe prophétique qui brille comme dans un lieu obscur. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lampe prophétique ? La lampe prophétique, c'est l'ensemble des révélations bibliques quant à l'avenir de la terre. Or, que nous disent ces prophéties ? Ces prophéties nous disent ceci. Nous comprenons bien. La lampe prophétique est sur la terre et pour la terre, mais elle fait partie de l'espérance du chrétien. L'étoile du matin est dans le ciel et pour le ciel. Alors, cette lampe prophétique nous dit ceci. Elle nous dit que la terre sera balayée par les jugements, puis qu'une fois que les jugements auront purifié cette terre, Christ apparaîtra pour établir son règne avec les saints glorifiés, et que nous régnerons avec lui parce que nous avons souffert avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Alors voilà la double espérance. Espérance céleste, espérance terrestre. Et permettez-moi, à propos de cette espérance qui est produite par l'Esprit Saint en nous, de faire allusion, et l'apôtre Pierre le fait dans le passage où il parle de l'étoile du matin, à la scène magnifique de la Sainte Montagne. Il y a deux domaines sur la Sainte Montagne. Il y a les disciples qui sont sur la terre et il y a Christ transfiguré et entouré de Moïse et d'Élie qui apparaissent en gloire. Or, que signifie la présence dans la partie céleste du royaume? Puisque Christ est transfiguré, il apparaît dans les attributs de sa gloire céleste, mais aussi répandant cette gloire sur la terre, il y a les deux parties du royaume, ciel et terre. Pourquoi y a-t-il Moïse et pourquoi y a-t-il Élie? Est-ce simplement parce que sur la sainte montagne de la transfiguration, Moïse incarnait la loi que Dieu avait donnée au peuple et Élie incarnait celui qui devait ramener le peuple à la loi? Nous comprenons que ce sont deux figures très grandes. Moïse, le législateur et le conducteur d'Israël, qui avait reçu la loi en Sinaï et qui l'avait donnée au peuple de la part de Dieu. Élie, le prophète, le grand prophète en Israël, qui avait tenté de ramener les 10 tribus à l'obéissance de cette loi, mais qui, ayant échoué dans son ministère, monte sur la montagne d'Horeb et en quelque sorte remet cette loi entre les mains de Dieu en disant « Éternel, c'est assez, je ne suis pas meilleur que mes pères, envoie la vie. » Oui, la raison est en partie celle-ci. que le Seigneur voulait paraître avec deux de ses plus grands serviteurs, le législateur et le prophète. Mais il y a une autre raison, et une raison très belle pour celui qui est animé par l'espérance de la gloire de Dieu. C'est que dans leur fin, Moïse et Élie ont eu une mort très différente. Je ne devrais pas dire une mort, je devrais dire une fin, puisque Élie n'est pas mort. Moïse est monté sur le Pisga. Il a été seul sur le mont Pisga. Il a vu de loin les plaines arrosées de Canaan. Il ne pouvait pas y entrer. Il était âgé de 120 ans, sa vigueur n'était pas affaiblie. Et sur ce mont Pisga, contemplant de loin la terre promise dans laquelle l'Éternel lui interdisait d'entrer à cause d'une désobéissance particulière lors de la scène du rocher frappé, il meurt dans la solitude. Son corps est l'objet d'un combat entre les anges et les anges du mal. Puis l'Éternel s'occupe de ce corps et il nous est dit que l'Éternel l'ensevelit lui-même sur la montagne et qu'on ne retrouva pas son corps. Ça, c'est un bel ensevelissement. Voilà que Moïse devient sur la sainte montagne du Tabor, dans la scène de la transfiguration. Le voilà qui devient le symbole de tous les saints qui ont dû passer par la mort. Tous ceux qui ont dû connaître l'agonie et l'appréhension de la mort physique. Et Élie, quelle a été sa fin? Quand Élisée, qui était son seul compagnon, tandis que Moïse était complètement seul, Élie avait Élisée à ses côtés, tout à coup il a vu les chars et les chevaux de feu venant du ciel, Élie emporté dans le ciel, et Élisée recevant son manteau, le second don du manteau d'Élie, et Élisée s'écriant « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Et Élie devient l'emblème, le symbole de tous les saints qui seront enlevés sans passer par la mort. Voilà les deux compagnies de rachetés qui peupleront la partie céleste du royaume. Ceux qui doivent passer par la mort pour entrer dans la gloire, figurés par Moïse, et ceux qui entreront dans la gloire sans passer par la mort, figurés par Élie, les deux entoureront Christ en gloire sur le Tabor, puis la partie terrestre du royaume, les disciples, avec les trois, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient plus près du Seigneur. Mais comment la scène s'est-elle terminée? Quand le Seigneur viendra dans sa gloire sur cette terre, nous serons avec lui, avec la myriade, les myriades de ceux qui ont passé par la mort et les myriades de ceux qui seront enlevés. Mais aux yeux de la terre, nous nous effacerons et Christ seul demeurera, parce qu'il est dit, et levant les yeux vers le ciel, ils ne virent plus que Jésus seul. Christ sera élevé au-dessus de tous et de tout. Et comme Moïse et Élie se sont effacés, nous, les cohéritiers de Christ, participant à la bénédiction de son règne, partie céleste du royaume, mais participant au règne sur la terre avec Christ, nous nous effacerons. À toi sera toute la place, à toujours, c'est Christ qui occupera la place. Tu occuperas la place dans tous les cœurs, tu occuperas la place dans le ciel et sur la terre. Et à ce moment-là, cette terre qui a tant souffert des conséquences du péché parlera au ciel et le ciel exaucera la terre. Christ sera tout en tous et enfin cette admirable vision donnée au patriarche dans sa nuit de Bethel se réalisera quand l'échelle a été dressée sur la tête de Jacob et qu'il a vu les anges montant et descendant du ciel jusqu'à la terre. À ce moment-là, nous régnerons. Mais nous ne régnerons pas pour le moment. Nous régnons en espérance. Et quand Paul dit aux Corinthiens, qui étaient riches, mais qui étaient dans un mauvais état, « Vous régnez déjà, mais nous voudrions que vous régnassiez avec nous. » Paul savait ce qu'il disait. Si le chrétien règne maintenant sur la terre et y trouve ses délices et y habite, comment attendrait-il l'espérance de la gloire de Christ? Cela est impossible, cela est contradictoire. Si bien que le chrétien place son cœur ou sur la terre ou dans le ciel. Mais ce qui produit, nos âmes soupirent après le saint séjour, chantons-nous quelquefois. Ce qui produit ces soupirs en nous, c'est l'Esprit Saint. Et alors nous avons une autre activité de l'Esprit. L'Esprit qui produit en nous le désir d'être avec Christ et de lui être semblable. Mais l'Esprit intercédant en nous, à cause des soupirs que nous poussons sur l'état de la création. Et voilà maintenant ce « nous savons » qui revient si souvent dans l'Épître aux Hébreux. Nous ne savons pas demander à Dieu ce qu'il convient, mais qu'est-ce que nous savons? Que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Vous avez remarqué sans doute les deux expressions. Nous ne savons pas, mais nous savons. Qu'est-ce que nous ne savons pas? Demandez comme il convient. Qu'est-ce que nous savons? Que toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Et alors, dans un envol magnifique, qui est le dernier verset de cette partie sur lequel nous allons dire juste un mot, Paul déploie les conseils de Dieu. Il prend, pour ainsi dire, les chaînons d'une chaîne qui serait fixée dans l'éternité passée, traverserait le temps et se termine dans l'éternité future. Quels sont les chaînons de cette chaîne? Le premier chaînon, c'est que Dieu nous a préconnus. Avant qu'aucune personne de cette salle n'ait été appelée à l'existence, Dieu la connaissait. Vous savez ce que le Seigneur dit à Adonaël, avant que tu fusses sous le figuier, je te voyais. Eh bien, avant que nous ayons été appelés à l'existence, Dieu nous connaissait. Il nous a préconnus, c'est-à-dire connus à l'avance. Mais il n'a pas fait que cela. Et il faut que les chrétiens et les saints aient le sentiment de l'éminente dignité à laquelle ils ont été appelés. Je dis bien dignité, parce qu'un chrétien sur la terre, dépositaire du Saint-Esprit dans son corps, est atteint s'il le réalise. Une dignité qu'aucune autre créature ne peut réaliser. Il a été préconnu de Dieu, mais il a été prédestiné. C'est-à-dire qu'avant que nous soyons nés, Dieu nous a destinés à la gloire éternelle. Prédestinés, destinés à l'avance. Il n'a pas seulement connu des êtres coupables qui voulaient peupler le ciel, mais il a destiné des êtres qu'il savait être coupables à peupler un jour le ciel. Après la préconnaissance et après la prédestination, il a appelé. C'est l'appel de Dieu. Il nous appelle. Vous, jeunes gens, jeunes garçons, Dieu vous appelle. Il vous a connu avant votre naissance. Il vous a destiné avant votre naissance à la gloire du ciel. Et il vous appelle. Il nous a appelés. Mais une fois qu'il a appelé, comme autrefois il a appelé Abraham hors de sa parenté, il ne fait pas que cela. Il nous justifie. Il nous rend juste. C'est ce que nous avons comme chaînon suivant. Appelé, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et dernier chaînon qui finit dans la gloire future, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà le plan de Dieu, le décret de Dieu à l'égard de ceux qu'il a aimés avant la fondation du monde. Dieu voulait une créature intelligente qui connut les sentiments qui habitaient son cœur. Dieu ne voulait pas rester seul dans la gloire suprême. Il voulait un être qui puisse connaître son amour et qui chante son amour. Et pour que cela puisse se produire, il fallait la chute, il fallait le péché, il fallait le mal, il fallait l'œuvre infinie de Christ pour qu'un jour sans fin nous chantions l'amour de Dieu dans les cieux et que nous puissions dire « Mon Dieu, tu m'as tellement aimé, tu m'as tellement aimé ». Chers frères et sœurs, nous comprenons maintenant la troisième partie dont nous dirons quelques mots très brefs. La troisième partie est une partie admirable. Paul est comme emporté dans cette partie. Il a étudié ce que l'Esprit produisait dans le chrétien. Il a parlé de l'adoption. Il a parlé de l'intimité avec Dieu. Il a parlé de l'héritage avec Christ. Il a parlé de la souffrance vu l'état de la création. Il a parlé de la délivrance de cette création asservie à la puissance de la corruption. Il a parlé de l'Esprit Saint qui est en nous comme intercesseur et qui pousse des soupirs inexprimables. Il a parlé de l'Esprit Saint comme formant en nous une espérance. Puis il a terminé par cette scène, n'est-ce pas, de la préconnaissance de Dieu jusqu'à la gloire où nous serons semblables à l'image de son Fils. Alors, dans la dernière partie, il arrive à cette conclusion. Que dirons-nous donc à ces choses? Que dirons-nous donc à ces choses? Mais cette troisième partie contient un mystère profond. Pourquoi Dieu, qui est tout amour et qui a fait de telles choses pour ses bien-aimés, pourquoi permet-il que ses bien-aimés connaissent l'épée, le péril, l'épreuve, la nudité, la détresse? Et alors, c'est là où nous arrivons à toucher du doigt le mystère de la foi. Quoi que puisse dispenser la main de Dieu, c'est Dieu qui dispense la chose. Et la foi est au-dessus de ces circonstances. Je pense que le meilleur exemple qui illustre les conséquences de la foi dans l'homme, c'est certainement Abraham, qui est le père de la foi. J'aimerais dire, juste en passant, parce que ce paragraphe contient un mystère concernant la foi, que le père des croyants a connu quatre grandes épreuves de la foi et qu'elles ont toutes été graduées, c'est-à-dire qu'il a connu l'épreuve de la foi la plus facile en premier lieu, puis l'épreuve de la foi la plus difficile en dernier lieu. Et ces épreuves de la foi sont les suivantes. Première épreuve, il est sorti de son pays ne sachant où il allait. C'est une première épreuve. Deuxième épreuve, il a habité en étranger sur une terre dont il était le légitime héritier. C'est une seconde épreuve de la foi. Troisième épreuve de la foi, Dieu lui avait promis une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et comme les sables au bord de la mer, et sa femme était hors d'âge et ne pouvait pas lui donner d'enfant. Mes chers frères et sœurs, que dire de la quatrième épreuve? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va à Morija, au lieu que je te montrerai, et là tu l'immoleras sur l'autel. Ce que Dieu a demandé à Abraham, est-ce que nous réalisons ce que cela comportait pour Abraham? Abraham, qui savait qu'il avait attendu avec foi et prière la venue de cet enfant qui allait être le chef de sa postérité, le voilà qui est obligé de gravir la colline pour aller l'immoler à Morija. C'est l'épreuve de la foi. Et les chrétiens de Rome qui connaissaient l'amour de Christ, puisqu'il leur avait été annoncé par l'Évangile, et qui connaissaient l'amour de Dieu et ce que produisait l'Esprit Saint en eux, c'étaient ces chrétiens qui allaient être estimés comme des brebis de boucherie. Mais nous avons cité la phrase du père de l'Église, Tertullien, qui disait « Le sang des martyrs est la semence de l'Église ». Si Dieu a permis 10 jours de terribles persécutions, ce qui est dit à l'église de Smyrne, et que ces 10 jours correspondent en gros aux 10 grandes persécutions que les chrétiens ont endurées sous l'Empire, c'est par la persécution des saints que l'amour de Dieu a frappé les païens d'une façon tellement étonnante que le christianisme s'est étendu. N'allons pas croire que tout le monde a résisté dans ces épreuves. Il y a un terme latin qui désigne ceux qui ont flanché. Ce sont les lapsis, ceux qui ont glissé. Et nous avons des documents sur le temps des martyrs où nous voyons précisément ce terme, ceux qui ont glissé, qui n'ont pas pu résister à la souffrance morale et physique de la persécution du martyr. Il y en a qui ont glissé, qui n'ont pas eu assez de foi pour aller jusqu'au bout, pour boire la coupe jusqu'à la lie. Mais il y en a beaucoup qui sont allés jusqu'au bout. Beaucoup de croix ont été dressées, beaucoup de bêtes féroces sont entrées dans les amphithéâtres pour dévorer les chrétiens. Beaucoup de cantiques et de prières sont montées vers Dieu au moment où ce Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, qui peut dire qu'aucune autre créature ne nous séparera de l'amour de Christ, laissait précisément des créatures monstrueuses comme les empereurs et leurs suppôts faire subir à des êtres humains les derniers outrages. Mais que dit Paul à ces chrétiens de Rome? Que dit-il? Il pose 2 questions. D'une part, qui condamnera les chrétiens? Et d'autre part, qui les séparera de l'amour de Christ? Personne ne les condamnera. Personne ne pourra les condamner. Parce que c'est Dieu qui les a rendus justes. Si des tribunaux humains les condamnaient à la mort, pas d'importance. Parce que la mort, c'était être présent avec le Seigneur. Mais quand ils comparaîtraient devant Dieu, ces martyrs, ils recevraient, et cela est dit dans l'épître qui nous occupe et qui concerne cette période de l'histoire de l'Église dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, il recevra la couronne de vie. Celui qui sera mort comme martyr recevra la couronne de vie. Ils la recevront, et leurs meurtriers, ceux qui ont permis de telles atrocités, comment comparaîtront-ils devant Dieu? Comment comparaîtra l'impie et le pécheur devant Dieu, ceux qui ont touché aux brebis du Seigneur? Alors, qui condamnera? Personne ne pourra les condamner. Ils sont justifiés et ils paraissent devant Dieu. Qui intentera accusation? Personne ne pourra le faire. Qui est-ce qui séparera ces chrétiens de l'amour de Dieu? Personne. Personne ne pourra séparer le chrétien de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Et Paul passe en revue les différentes puissances qui pourraient effrayer le chrétien. C'est dans le dernier verset, versets 38 et 39, quand il dit « Est-ce que la mort nous séparera de l'amour de Christ ?» Mais non, la mort nous permettra d'être présente avec le Seigneur. Est-ce que la vie nous séparera de l'amour de Christ? Mais non, nous éprouverons les soins du Seigneur dans notre carrière. Est-ce que peut-être des anges ou des principautés, c'est-à-dire des autorités contraires à Dieu, pourraient troubler le chrétien? Rien ne pourra le troubler. Pourquoi? Parce que ce sont des créatures. Et Dieu est le Créateur. Et le Créateur est au-dessus de la créature. Et alors ensuite, il parle, l'apôtre, du temps et du lieu. Le temps, le présent, chose présente, chose à venir. Ensuite, le lieu, hauteur, profondeur. Et pour terminer, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de ces quatre réunions où nous avons essayé d'expliquer en quelques mots la doctrine de la justification des péchés et de l'affranchissement du péché. Mais nous sommes heureux de terminer cette étude. Et ces quatre rencontres par cet admirable paragraphe du chapitre 8. Que notre foi ne défaille pas. Le Seigneur l'a dit à Pierre, « Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Il y a dans nos cœurs toutes les sources possibles de l'incrédulité. Il y a dans nos cœurs toutes les sources possibles du reniement du beau nom du Seigneur. Mais il y a un mot dans ce paragraphe sur lequel j'aimerais insister. Christ qui aussi intercède pour nous. Que la vision d'un Christ glorifié dans le ciel et priant pour les siens, sachant qu'il leur a envoyé l'Esprit pour entretenir les siens de la gloire qui va venir. Que cette intercession de Christ soit pour nous un sujet d'encouragement. Et si les chrétiens de Rome qui ont tant souffert pour le nom, sont restés fidèles jusqu'à la mort, selon l'expression de l'Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Qu'est-ce que le Seigneur attend de ceux qui sont comme nous, pareillement privilégiés? Nous avons la paix. Nous avons des autorités qui nous protègent. Nous pouvons nous réunir en toute liberté. Nous avons de quoi manger, de quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir, et même bien au-delà. Que notre cœur ne murmure jamais. Que nous nous rendions compte des bienfaits de Dieu à notre égard. Et si l'horizon devenait sombre, on verrait ceux qui vraiment dans la plénitude de l'Esprit pourraient rester fidèles au Seigneur jusqu'à la mort.